Bonjour, vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour. Aujourd'hui, le 5 avril 1896, les premiers Jeux Olympiques de l'époque moderne. Par ce même souterrain, qui vit disparaître un triste automne de l'an 392, les derniers athlètes grecs, chassés par la décadence et maudits par l'Église, apparaissent le 5 avril 1896 dans un éclatant soleil et sous une clameur immense, les représentants de 13 nations réunis pour les premiers Jeux olympiques de l'époque moderne. 70 000 spectateurs applaudissent l'impressionnant cortège des champions venus du monde entier qui pénètrent sur la piste du stade d'Athènes. Dans la tribune officielle, le baron Pierre de Coubertin est saisi par l'émotion. Son rêve se concrétise. Les Jeux olympiques renaissent. Le 25 novembre 1892, alors secrétaire général de l'Union des sociétés françaises des sports athlétiques, il émet le vœu que la renaissance de l'athlétisme dans le monde ait pour conclusion nécessaire le rétablissement des Jeux olympiques. Donner un lustre éclatant aux prouesses des champions, internationaliser et démocratiser le sport, quelle compétition peut mieux servir ce plan que les Jeux olympiques rétablis dans leur faste, son idée proclamée, il s'ingénie à la faire accepter. Aux États-Unis, il trouve un accueil sympathique, en Angleterre, un acquiescement sceptique. Le 16 juin 1894, le premier congrès olympique se tient dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne. 8 jours durant, les championnats de longue paume, les assauts d'escrime, une journée nautique imprègnent de sport les congressistes qui établissent le programme des futurs Jeux olympiques. L'enthousiasme naît vite parmi les délégués. La Suède réclame pour Stockholm l'honneur de célébrer la renaissance des Jeux antiques. Coubertin souhaite accorder ce privilège à Paris pour l'an 1900. Finalement, le 23 juin, Athènes est choisie pour organiser les premiers Jeux olympiques en 1896. Le but est de renouer avec la tradition hellénique. Affolé d'un succès qui dépasse très largement ses espérances, Coubertin s'embarque à Marseille pour le Pirée, où des déceptions l'attendent. Le gouvernement grec connaît de terribles difficultés financières. Le président du conseil, Charilaos Trikoupis, lui écrit « Conscient de la faiblesse des moyens dont dispose actuellement le peuple grec, pénétré de la conviction que la tâche dépasse nos forces, les délégués préposés à l'examen de la question n'ont pas eu la liberté du choix en repoussant l'offre généreuse de Paris. Les premiers Jeux olympiques semblent compromis. Heureusement, un universitaire athénien, Démétrius Vikelas, est élu président du premier comité international olympique. Il obtient l'appui du roi Georges Ier. Le prince royal de Grèce prend la direction de l'embryonnaire comité d'organisation. Les dons se multiplient. Un grec d'Alexandrie offre 1 million de drachmes pour restaurer l'ancien stade panathénaïque que Lycurge fit dessiner en 350 avant l'ère chrétienne, et dont il ne reste que l'emplacement et les talus arrondis par l'usure et les intempéries. Des blocs de marbre sont taillés dans le Pentélique, la blanche montagne qui domine la plaine de Marathon. La cérémonie inaugurale achevée, les Jeux olympiques commencent, suivant le même rite que voici 15 siècles à Olympie. Les séries de la course de vitesse ouvrent les épreuves. Les Américains accueillent tous les lauriers. James Brendam Connolly, vainqueur de l'épreuve du triple saut, télégraphie à ses parents. Les Hélènes ont vaincu l'Europe, moi j'ai vaincu le monde entier. Robert Garrett, étudiant de Princeton, obtient la médaille d'or du disque avec un jet de 29 mètres et 15 centimètres. Pourtant, il n'avait jamais pratiqué auparavant cette discipline. Les Français gagnent en cyclisme la course des 100 km sur piste avec Léon Flamengue et le Fleuret avec Eugène-Henri Gravelotte. Les Grecs tiennent leur revanche avec le marathon remporté par Spyridion Louis. Ici, le triomphe des Hélènes est total. Sur les 16 athlètes participants, 8 terminent la course, dont 7 Grecs. Seul le Hongrois Gyula Kellner se glisse à la 4e place. Les premiers Jeux olympiques ne suscitent pas de réel succès sportif. Cependant, avec 292 athlètes venus de tous les continents, ils prouvent leur capacité à exister. Le roi Georges Ier suggère qu'ils soient toujours célébrés à Athènes. Coubertin soulève de nombreuses objections. En effet, il souhaite les internationaliser en les disputant alternativement dans les plus importantes villes du monde. Nous allons marquer une pause musicale dans cette émission Historama avant de retrouver la chronique littéraire, un jour trois livres. C'est Sœur Sourire qui nous accompagne, cette dominicaine qui a connu un franc succès dans les années 1960, interprétée en 1963, Dominique. Nous l'écoutons.
Dominique et Nique s'en allaient tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu.
À l'époque où Jean sans terre d'Angleterre était le roi, Dominique, notre père, combattit les albigeois.
Dominique et Nique s'en allaient tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu.
Certains jours, un hérétique par des ronces le conduit, mais notre père Dominique par sa joie le convertit.
Dominique, Nique s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu.
Ni chameau, ni diligence, il parcourt l'Europe à pied, Scandinavie ou Provence, dans la sainte pauvreté.
Dominique et Nique s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu.
Enflamma de toute école, fils et garçons pleins d'ardeur, et pour semer la parole, inventa les frères prêcheurs.
Dominique et Nique s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu.
Chez Dominique et ses frères, le pain s'en vint à manquer, et deux anges se présentèrent portant de grands pains dorés.
Dominique et Nique s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu.
Dominique vit en rêve les prêcheurs du monde entier, sous le manteau de la Vierge en grand nombre rassemblés.
Dominique et Nique s'en allaient tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu.
Dominique, mon bon père, regarde-nous simples et gais, pour annoncer à nos frères la vie et la vérité.
Dominique, Nique s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu.
Vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour, la chronique littéraire, un jour trois livres, préparée par Emmanuel. C'est une spéciale Colette en quatre volumes, reprenant 11 romans ou récits. Tout ceci est publié aux éditions Archipoche avec une préface de Catherine Pancol. Nous commençons par Claudine à l'école et Claudine à Paris. Claudine à l'école est un roman semi-autobiographique de Colette, paru en 1900 sous la signature de son mari, Willy, qui est alors célèbre et qui l'utilise comme prête-plume. Les rééditions seront sous les signatures de Willy et Colette, Willy et Colette-Willy, Colette et Willy, et enfin Colette seule. Claudine, 15 ans, vit à Montigny avec son père, homme distrait, plus préoccupé par les limaces que par l'éducation de sa fille. Celle-ci fréquente la petite école du village, cadre principal des aventures décrites dans ce livre, présenté comme le journal intime de la jeune fille. Nous poursuivons avec Claudine à Paris. Claudine et son père ont maintenant quitté le village de Montigny pour s'installer à la capitale, où la jeune fille se remet d'une maladie qui lui a coûté ses beaux cheveux longs. Lorsque Claudine reprend des forces, c'est pour relater dans son journal les exploits de sa chatte Fanchette, ses explorations dans Paris et surtout ses nouvelles rencontres, dont Renaud. Claudine emménage, Claudine s'en va, la maison de Claudine sont rassemblées dans le deuxième opus de cette restitution de l'œuvre de Colette. Avec Claudine emménage, c'est Renaud qui apparaît de manière importante. Claudine l'a épousée, tous deux se sont installés ensemble à Paris. Ce dernier mène une vie mondaine, mais l'arrivée d'une jeune femme, Rézy, vient perturber l'équilibre du couple. Attirée par Rézy, Claudine finit par entamer une liaison avec la jeune femme, tandis que Renaud ferme les yeux sur l'adultère. Dans Claudine s'en va, Claudine s'efface pour laisser place à une nouvelle héroïne, Annie, entièrement soumise à son mari Alain. Annie est bouleversée par le départ de ce dernier, qui l'abandonne aux mains de sa sœur Marthe, femme libre et volontaire. Pourtant, au contact de celle-ci, Claudine et d'autres femmes de caractère, Annie commence à s'affirmer et à s'interroger sur son mariage et sur celui qui lui dictait jusque-là ses moindres gestes. La maison de Claudine est un livre autobiographique qui raconte par de courtes scènes sa jeunesse heureuse à la campagne, à Saint-Sauveur en Puisaye. Nous sommes dans le département de l'Yonne, au nord, ouest de Auxerre, dépeignant sa mère, son père et quelques-uns de ses animaux de compagnie. La vagabonde, l'entrave, mes apprentissages constituent le troisième volume de cette série consacrée à Colette. Colette utilisa largement son expérience personnelle dans La Vagabonde, aussi bien dans la description à peine déguisée de son union malheureuse avec l'écrivain Henri Gauthier Villard, dit Willy, que dans les nombreuses références à l'univers du musical, où elle travailla plusieurs années après son divorce. Le roman L'Entrave raconte la suite de la vagabonde. Le ton est différent. Colette a entre-temps épousé Henri de Jouvenel en 1912 et leur fille naît l'année suivante. Colette tiendra a posteriori des propos sévères sur ce roman, dénonçant la tonalité même de cette écriture. Colette, la femme libre par excellence, n'a jamais pardonné à son premier mari Willy d'avoir exploité ses dons d'écrivain à son propre profit, de l'avoir trompée et humiliée. 5 ans après la mort de Willy, elle se venge dans Mes apprentissages, récit sans complaisance, y compris contre elle-même, de son émancipation. Le blé en herbe, Chéri, la fin de Chéri, constitue le 4e opus de cette série. Le blé en herbe, c'est l'initiation sentimentale et sexuelle de 2 adolescents parisiens, un garçon, Phil, 16 ans, et une fille, Vinka, 15 ans, amis depuis leur plus tendre enfance, en vacances au bord de la mer en Bretagne. Avec Chéri, on assiste au désenchantement de Léa, une courtisane de près de 50 ans qui est la maîtresse de Fred Peloux, appelée Chéri. Chéri va épouser la jeune et tendre Edmée et comprendra alors que la rupture avec Léa ne va pas sans regret. La fin de Chéri compte le retour du front de la guerre 14-18 de Fred Peloux. Sa personnalité n'a plus rien à voir avec celle du jeune homme insouciant et futile qu'il était avant la guerre. Mélancolique et désœuvré, il constate qu'il n'a plus sa place dans ce monde où son épouse n'est plus une jeune fille effacée et sa Léa est devenue une vieille femme obèse et asexuée. Voilà pour ces 4 volumes, reprenant donc 11 romans ou récits consacrés à Colette, publié par les éditions Archipoche et préfacé par Catherine Pancol, façon de redécouvrir, ou pour certains de découvrir, cette femme de lettres tout à fait exceptionnelle qui a marqué la première moitié du XXe siècle en France. Je vous encourage à découvrir donc ces différents textes qui sont des éléments majeurs de la littérature française contemporaine. Ainsi s'achève cette émission Historama. Merci à Thomas qui l'a réalisée. Et c'est en chanson que nous allons nous séparer avec Sœur Sourire qui, en 1962, nous chantait Alléluia.
J'allais sur toutes les routes vagabondant, au gré du temps, au gré du vent, traînant partout ma lassitude, au gré du temps, au gré du vent. Pour l'amour où Dieu m'invite, pour la vie qu'il partage avec moi, pour le bonheur que je lui dois, Alléluia. Pour la joie que Dieu me donne, pour la paix qu'il garde sous mon toit, pour le salut que je lui dois, Alléluia. Je marchais dans la tristesse et l'ennui était mon chant. Je marchais dans la tristesse, paix et bonheur partout cherchant. Pour l'amour où Dieu m'habite, pour la vie qu'il partage avec moi, pour le bonheur que je lui dois, Alléluia. Pour la joie que Dieu me donne, pour la paix qu'il garde sous mon toit, pour le salut que je lui dois, Alléluia. Au hasard de mes aventures, un soir d'été, Dieu, j'ai rencontré, lui ai confié ma solitude et son amitié. m'a sauvé. Pour l'amour où Dieu m'habite, pour la vie qu'il partage avec moi, pour le bonheur que je lui dois, alléluia. Pour la joie que Dieu me donne, pour la paix qu'il garde sous mon toit, pour le salut que je lui dois, alléluia. La 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 la